Pourquoi les élections de mi-mandat américaines, les fameuses midterms, les US midterms, qui auront lieu le mardi 3 novembre prochain, pourraient tout bouleverser, pourraient agir fortement sur la tendance du marché action américain en modifiant en profondeur la capacité du gouvernement Trump d'agir sur l'économie, d'agir sur la géopolitique, et vous avez pu le constater depuis janvier 2025 à quel point la politique globale macro-économico-géopolitico de l'administration Trump agit sur la tendance du S&P 500 en bourse. Dans cette vidéo spéciale sur les élections de mi-mandat, on se prépare. Le 3 novembre, ça approche. Il s'agit probablement d'un des temps forts majeurs fondamentaux d'ici la fin d'année, avec les perspectives de politique monétaire de la Réserve fédérale des États-Unis. Première partie.
Cette émission vous est présentée par SwissQuote.
Le contenu de cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Merci à tous. Quelle est la situation actuelle du Congrès des États-Unis? D'ailleurs, savez-vous ce qu'est le Congrès des États-Unis? On part d'une situation politique, je vais vous la réexpliquer. Deuxième partie, les midterms du 3 novembre prochain, les enjeux clés. Qui vote? Qu'est-ce qu'on vote? Pour qui? Combien de sièges? Chambre des représentants des États-Unis, Sénat des États-Unis. C'est ça le Congrès des États-Unis. Mais il n'est pas renouvelé en totalité. Je vous explique tout. Troisième partie, les trois scénarios possibles. Démocrate, républicain, qui aura la Chambre, qui aura le Sénat, peuvent-ils se partager le pouvoir législatif? Quatrième partie, qu'est-ce qui se passe concrètement si Trump, enfin son administration, enfin les républicains, vous m'avez compris, ne conservaient que le Sénat des États-Unis? Est-ce que cela modifie la capacité de l'administration à modifier, à agir sur l'économie, à avoir une politique géopolitique indépendante, sans consulter le Congrès? Je vous explique tout. Cinquième partie, cycle... Oui, la vidéo est chargée. Cinquième partie, cycle présidentiel. Rappelez-vous de ce cycle présidentiel. Vous savez, je vais vous remontrer des statistiques étonnantes. La troisième année du mandat présidentiel, elle est la meilleure. Alors, ça veut dire quoi? 2007, 2027, encore haussier. 2027, encore une tendance haussière de fonds préservée pour le S&P 500. Statistiquement, vous allez voir que c'est tout à fait jouable. Cette semaine, vous avez les résultats de AMD et de SpaceX. Rappelez-vous SpaceX. Je vous ai fait une émission spéciale il y a 2 mois sur les IPO en bourse, vous montrant que 95% des IPO US depuis 2015, il y avait une semaine de hausse après l'introduction et ensuite entre 50 et moins 80% de baisse. SpaceX a perdu 50%. Depuis son cours d'introduction. Parce qu'on vient à l'achat. Bon. Vous l'avez dit. Bon. Alors, AMD cette semaine, c'est le deuxième fabricant de GPU IA après Nvidia. Alors, AMD qui est beaucoup plus cher que Nvidia d'ailleurs. Donc, je vais vous faire parler de AMD. Cette semaine, c'est aussi le rapport NFP, j'en dis un mot, les chiffres de l'emploi US. Vous savez, vous l'avez vu, la Fed va rester data dependent, peut-être jusqu'au mid-term. Donc, d'ici les mid-term, il reste 2 décisions de politique monétaire. 16 septembre et fin octobre. Est-ce que vraiment la Fed va conserver le statu quo jusqu'au mid-terms ou, eh bien, pour ne pas interférer en fait, ou va-t-elle être parfaitement data-dependent? Inflation, emploi, tout ça est important. Et comme d'habitude, je terminerai par un point technique sur l'indice S&P 500, émission spéciale. Pourquoi les élections de mi-mandat américaines du mardi 3 novembre prochain sont probablement le facteur fondamental dominant d'ici la fin d'année? Positionnant la Fed et sa politique monétaire en deuxième position, pas loin, mais juste en dessous. C'est parti, nouvelle édition du Top Gun. Allez go, c'est parti, les élections de mi-mandat US, les US mid-term. Alors au passage, vous pouvez trouver 2 façons d'écrire en anglais ces élections de mi-mandat. Soit vous dites les mid-term, US mid-term, soit vous pouvez aussi trouver US mid-terms. Bon, le plus fréquemment, on trouve plutôt US mid-term. Election, US midterm election, mais j'ai aussi trouvé midterms, enfin bon bref, voilà. Les deux sont parfaitement valables. Le programme, alors je viens de vous le donner en vidéo, mais il est chargé, vous l'avez ici à l'écrit, On va prendre le temps de le faire. Je parle donc notamment ici des élections de mi-mandat, forcément, parce que c'est le sujet de cette vidéo. Mais donc, je vais aussi vous parler de AMD et de SpaceX qui publient cette semaine. Je vous rappelle qu'AMD est le deuxième fabricant mondial de GPU IA après Nvidia et que SpaceX... Alors, est-ce que je vous présente SpaceX ? Non, franchement, tout le monde connaît SpaceX, qui a été récemment introduit en bourse et qui a perdu 50% de son IPO comme prévu. Bon... Ils publient leurs résultats cette semaine. Est-ce que ce sera justement une semaine de bottom, de reprise ? Nous attaquons donc cette émission spéciale, cette émission du Top Gun. Et puis, je vais donc réduire un peu tout ça et me positionner en bas, histoire que vous puissiez voir les slides tranquillement. Plein écran, petit. Bon, la Fed, statu quo, je commis terme ou data dependent, je n'y reviens pas. La Réserve fédérale des États-Unis, c'était la semaine dernière. Vous avez toutes et tous pris connaissance des éléments publiés par la Fed de Kevin Warsh. Se pose encore une question. La question est la suivante. Y aura-t-il un statu quo jusqu'aux élections de mi-mandat pour éviter qu'une modification de la politique monétaire ne vienne agir sur le vote des électeurs américains ? Ou y aura-t-il une Fed pleinement dans son rôle, c'est-à-dire data dependent, et donc prenons, il reste la décision de politique monétaire du 16 septembre et la décision de politique monétaire du 28 octobre, 16 septembre, 28 octobre, et ensuite mardi 3 novembre, les élections de mi-mandat. Est-ce que la Fed va donc vouloir rester ferme en statu quo pour ne pas faire de l'interférence politique, ou va-t-elle tenir compte du prix du pétrole, du prix du gallon, de l'inflation CPI, de l'inflation PCE, du TWIN, mine PCE et du NFT d'ailleurs au passage, cette semaine, vendredi 7 août, c'est aussi le NFP. Et oui, je vous avais dit, c'était une semaine extrêmement chargée, à un moment où, si vous voulez, il y a une difficulté, c'est que le prix du gallon, alors ce site est excellent parce que ce site internet vous donne, vous savez aux États-Unis, donc c'est le gallon de pétrole, c'est 3,78 litres, Et alors, le prix du gallon n'est pas le même dans tous les États. Forcément, les États du Sud qui produisent beaucoup de pétrole, bah, le prix du pétrole est moins cher. Puis plus on s'éloigne de la production de pétrole américaine, plus ça devient cher. Et donc, le prix moyen du gallon actuellement, c'est 4 dollars. Il y a un an, c'est 3 dollars. Pour un Américain, un prix du gallon entre 2,5 et 3 dollars, c'est normal. 4 dollars, c'est pas normal. Ça met la Fed sous pression. Et ce dont a besoin la Fed pour ne pas modifier sa politique monétaire jusqu'aux élections de mi-mandat, c'est un prix du gallon qui retourne vers ce qu'il était il y a un an, c'est-à-dire autour des 3 dollars le gallon. Et là, actuellement, le Trueflation US CPI gallon est toujours autour des 4 dollars. C'est probablement ça qu'il vous faudra surveiller massivement, ainsi que le fameux TWIM min PCE. Vous le savez, cet indice d'inflation profonde. Je ne refais pas un Top Gun dessus, j'en ai parlé il y a deux semaines. Et ce que veut la Fed, c'est éviter que le TWIM min passe au-dessus de 3%. Tant qu'il est sous 3%, le prix de l'énergie, le rebond de l'inflation nominale ne modifie pas l'inflation profonde américaine et la Fed peut garder le statu quo. Bon, je ne parle pas davantage de la Fed, ça c'était le sujet de la semaine dernière, mais il faut quand même l'avoir en tête parce qu'il y a bien sûr un lien direct avec ces élections de mi-mandat. Les dates sont là, hein. La Fed doit prendre une décision le 16 septembre, le 28 octobre, et ensuite c'est l'élection du 3 novembre. Donc tout ça, ce sont les deux vrais thèmes d'inquiétude fondamentale d'ici la fin de l'année, c'est les élections de mi-mandat et c'est la Fed. À côté de ça, bien sûr, il y a toujours la géopolitique, mais elle arrive après, d'accord ? Enfin, elle arrive après. Bien sûr qu'elle joue sur le prix du pétrole, donc voilà, c'est un ensemble. Allez, mettons les trois au même plan, ce sera plus simple. Le Congrès des États-Unis, la situation actuelle. Alors, tout d'abord, je vous rappelle que le Congrès des États-Unis, c'est deux chambres. Vous avez la Chambre des représentants et les députés classiques, et vous avez le Sénat des États-Unis. Le Sénat, deux sénateurs par État. Les États-Unis étant constitués d'États fédéraux. La Chambre des représentants, elle, eh bien, le nombre de députés est lié directement à la population. Ce n'est pas le cas pour les sénateurs, puisqu'il y a des États très peu peuplés qui auront autant de sénateurs que l'État de New York, que l'État de Californie, que l'État du Texas. Et bien sûr, leur rôle législatif est complètement différent. Quelle est la situation actuelle? La Chambre des représentants aux États-Unis, c'est 435 sièges. Actuellement, les Républicains, donc le parti de Donald Trump, a donc 220 sièges sur 435. Les démocrates en ont 213. Les indépendants, 1. La majorité actuelle est donc républicaine. Le Sénat des États-Unis, c'est 100 sièges. Vous avez 2 sièges par État. Les républicains ont 53 sièges, les démocrates 45, et vous avez 2 indépendants proches des démocrates. La majorité est républicaine. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des lois pour être définitivement adoptées, donc elles passent par la Chambre des représentants et ensuite par le Sénat. Au Sénat, il faut en général une majorité de 60. Alors, pas forcément pour toutes les lois, mais pour celles qui ont vraiment un impact structurel sur l'économie des États-Unis. Et donc, vous voyez bien que actuellement, donc, le gouvernement Trump a pu légiférer, passer plein de nouvelles lois sur le plan économique, bah, les fameux droits de douane ou encore la géopolitique, parce qu'ils ont la majorité à la Chambre des représentants et au Sénat. Mais certaines lois, la plupart d'ailleurs sont passées à la Chambre des représentants, mais il y a certaines lois qui sont passées à la Chambre des représentants et qui sont encore à l'étape du Sénat. Et à chaque fois, ça nécessite beaucoup de négociations, par exemple, comme le Clarity Act crypto, qui a déjà été voté à la Chambre des représentants depuis plus d'un an, mais qui bloque encore au Sénat. Vous allez me dire pourquoi? Pourtant, les républicains ont 53 sièges. 53 sur 100, c'est la majorité. Oui, mais certaines lois qui ont une modification structurelle de l'économie américaine nécessitent 60 votes, 60 sur 100. Et donc, forcément, bah, il faut trouver 7 démocrates. Alors, parmi les démocrates modérés, entre guillemets. Donc, tout ça est passionnant. Alors, quel est l'enjeu, quels sont les enjeux des élections du mi-mandat du mardi 3 novembre prochain? Les enjeux de ces élections de mi-mandat. Alors, regardez bien tout ça. Ça se trouve par ici. Chambre des représentants, 435 sièges. Que se passe-t-il le mardi 3 novembre prochain? Tous les sièges sont renouvelés. Aimez-moi bien. Tous les sièges sont renouvelés. Le Sénat, c'est 100 sièges. Les républicains sont donc majoritaires. Attention, seulement 35 sièges sur 100 sont remis au vote. Donc, aux élections de mi-mandat, tous les sièges des représentants sont renouvelés et 35 sièges sur 100, donc un tiers, sont remis au vote au Sénat des États-Unis. Quelles sont les tendances actuelles et que disent les pronostics? Les pronostics sont légèrement favorables aux démocrates pour la Chambre des représentants. Une majorité des modèles donne les démocrates gagnants. Perdre la Chambre, c'est fini pour l'agenda législatif de Trump, puisque tout commence à la Chambre des représentants. C'est la première partie du cadre législatif, de l'édition de nouvelles lois, et de même pour le contrôle du budget fédéral. Donc là, pour le coup, pour la politique économique, la politique commerciale, les choses devraient se compliquer. Pour les lois qui ne sont pas encore passées, à venir, le passé est le passé. Les lois ont été votées. On ne revient pas comme ça sur une loi qui a été votée. Ensuite, le Sénat des États-Unis, 100 sièges. 35 sièges sont remis au vote. Les républicains restent légèrement favoris grâce à une carte électorale plus favorable. Grosso modo, les républicains devraient conserver entre 55 et 60 sièges au Sénat. Donc ça, conserver le Sénat, ça permet à Trump de garder beaucoup de leviers, notamment sur les nominations judiciaires et administrative, et garder le contrôle du Sénat, c'est aussi pouvoir faire aboutir définitivement des lois qui ont déjà été adoptées à la Chambre des représentants, mais qui n'ont pas encore passé le cadre du Sénat. Alors, normalement, et eu égard à la carte électorale, pour le Sénat des États-Unis, sauf énorme surprise, en fait, il y a beaucoup de petits États aux États-Unis qui envoient deux sénateurs, qui sont des États du centre des États-Unis, des États profonds qui votent républicains. Avec là, il y a une grosse marge d'erreur en leur faveur, d'après les sondages. Pour la Chambre des représentants, là c'est plus compliqué, les républicains pourraient la conserver, mais pour conserver la Chambre des représentants, il faudrait vraiment une amélioration substantielle de la façon dont les Américains vont ressentir le prix de la vie, leur pouvoir d'achat, le marché de l'emploi et le prix du gallon. Oui, ça peut paraître anodin, mais ça joue énormément. Alors, je prends un exemple qui n'a rien à voir, mais rappelez-vous à l'époque, le mouvement des gilets jaunes en France, tout était parti du prix de l'essence. C'est concret, les États-Unis, c'est un pays de l'automobile, c'est un pays de voiture, c'est pas un pays du train à grande vitesse, c'est un pays de l'avion et de la voiture. Bon. Donc, un gallon à 4 dollars, autant vous dire que, bien, au moment de voter, on se dit qu'il y a un an, c'était 3 et que sous Trump, c'est 4, ça va pas aider. Par contre, forcément, si d'ici 3 novembre, le prix du gallon revient à 3 novembre, si d'ici 3 novembre, le prix du gallon revient à 3 dollars, décidément, ça fait beaucoup de 3, là, ça reste jouable. Donc, c'est là où on a en fait cette imbrication entre la situation géopolitique, le prix du gallon, les perspectives de politique monétaire de la Réserve fédérale des États-Unis, de Kevin Warsh, 16 septembre, 28 octobre, et date butoir, ces élections de mi-mandat du 3 novembre, où tout ça va jouer ensemble et ça va être passionnant. Donc, actuellement, quel est le scénario qui est jugé le plus probable? Eh bien, ce scénario le plus probable, le scénario central, c'est que la Chambre des représentants serait perdue par les républicains et deviendrait à majorité démocrate, mais que le Sénat resterait républicain. Ces trois scénarios, je vous les ai décrits ici. Les trois scénarios, donc, après pour les élections du 3 novembre. Premier scénario, 30% de probabilité. Les républicains gardent la Chambre et le Sénat. Donc là, pour le coup, impact. Trump garde un contrôle politique très large jusqu'à la fin de son mandat, qui dure encore 2 ans, sur la politique économique, la politique fiscale, la politique budgétaire, la politique commerciale, le cadre géopolitique. Et vous l'avez noté depuis janvier 2025, à quel point tous les éléments que je viens de vous citer ont impacté le S&P 500. Non pas modifié sa tendance haussière de fond, mais ont souvent créé des corrections court terme de 10, 15, parfois 20%. Rappelez-vous celle du printemps 2025, par exemple, la guerre commerciale, ou des événements liés à la géopolitique, les droits de douane, etc. À chaque fois, c'était des opportunités, des corrections court terme pour se placer dans la tendance de fond haussière. Donc ça, c'est 30%. Scénario majoritaire, 50% de probabilité, les démocrates prennent la Chambre et l'administration Trump garde le Sénat. Le gouvernement serait divisé, Trump conserve ses pouvoirs exécutifs, certains pouvoirs législatifs, certains pouvoirs administratifs, beaucoup de pouvoirs judiciaires, mais l'agenda législatif nouveau serait bloqué. En tout cas, ou sinon, il faudrait faire beaucoup de concessions aux démocrates. Et scénario minoritaire, les démocrates prennent la Chambre et le Sénat. Alors là, c'est terminé, si vous voulez. Trump serait complètement bloqué dans toutes ses formes de politique, à moins d'agir par décret en passant outre le Congrès, mais il s'exposerait à peut-être même un impeachment ou beaucoup d'actions, si vous voulez, du Congrès pour bloquer sa politique. Il aurait de toute façon plus de légitimité pour agir. Bref. Bon, sachant aussi que son pouvoir repose aussi souvent beaucoup sur la communication, tout ça perdrait énormément de valeur. Et pour qu'un tel scénario se produise, eh bien, c'est que se retrouver début novembre avec une Fed qui aurait monté les taux, un gallon largement au-dessus de 4 dollars, 2. Et là, et une situation géopolitique, par exemple, catastrophique. Ou encore, par exemple, je vous parlais de la crypto, vous savez qu'il a été en partie élu sur ça, en 2025, enfin fin 2024, un Clarity Act qui n'aurait pas passé l'étape du Sénat d'ici les élections de mi-mandat. Il y a beaucoup de choses qui feraient, tout ça combiné, ferait que les démocrates, mais il faudrait vraiment une conjonction de mauvaises nouvelles pour perdre le Sénat. Pour l'instant, il y a trop d'États dits secondaires, mais qu'on voit quand même 2 sénateurs qui sont quand même largement républicains. Donc il faudrait vraiment quelque chose d'exceptionnel, notamment sur le prix du gallon. C'est pour ça que c'est vraiment très important de continuer à le suivre. Et c'est en lien directement avec le prix du pétrole. Et oui, l'analyse technique donne bien sûr des signaux tout à fait percutants sur ce sujet. Alors, et si Trump ne gardait justement que le Sénat? Ça, je viens de vous l'expliquer, c'est donc le scénario central. Perte de la Chambre des représentants, donc agenda législatif bloqué. L'agenda législatif, c'est faire les lois, hein, toute forme de loi. Il y en a eu beaucoup, notamment dans le domaine économique. Mais garder le Sénat, qu'est-ce que concrètement l'administration Trump garde comme pouvoir et qu'est-ce qu'elle perd? Donc ce tableau vous explique tout. Si Trump garde le Sénat, mais perd la Chambre des représentants, il conserve les nominations judiciaires, juges fédéraux, Cour suprême, les nominations administratives, ministres, hauts responsables, agences fédérales, la politique étrangère, et oui, aux États-Unis, la politique étrangère est très contrôlée par le Sénat. C'est vraiment, d'ailleurs, ce qui différencie le Sénat des États-Unis des Sénats, par exemple, des grands États européens. Ou, typiquement, en France, le Sénat français, par exemple, n'a aucun impact sur la politique étrangère. Et les décrets exécutifs, les fameux executive orders, conservaient donc sur ce sujet une large marge de manœuvre dès lors qu'ils conservent le Sénat. Et vous savez que Trump agit beaucoup par executive orders. Donc, d'une certaine façon, vous voyez que conserver le Sénat, eh bien, ce ne serait pas si grave. En tout cas, pour agir selon ce que je viens de vous décrire, par contre, ce serait plus compliqué pour faire de nouvelles lois. Mais là, depuis 2 ans, énormément de lois du programme de Trump ont déjà été passées. Alors par contre, perdre la Chambre, c'est s'exposer à un blocage, vous savez, pour le fameux budget fédéral, le relèvement à chaque fois du plafond de la dette, qui nécessite un accord bipartisan à la Chambre des représentants. Ça va bloquer complètement les nouvelles grandes lois qui doivent encore être passées, et ça va être sans la Chambre. La première étape, c'est toujours un vote majoritaire à la Chambre des représentants. Donc il va falloir négocier avec les démocrates, ça va être compliqué. Des enquêtes parlementaires à foison, d'accord, et bien sûr, perdre la Chambre, c'est un risque d'impeachment, la fameuse procédure de destitution. Mais vous pouvez donc voir à travers cela que, au final, perdre la Chambre des représentants mais conserver le Sénat laisserait quand même beaucoup de pouvoir à Donald Trump et à son administration. Rappel du cycle présidentiel. Pourquoi je rappelle le cycle présidentiel ? Parce que ce sont des statistiques qui peuvent parfois agir, mais surtout, la 3e année du mandat présidentiel est connue pour être une des plus percutantes. Le cycle présidentiel consiste donc à calculer la performance moyenne du S&P 500 en fonction de l'année numéro 1 du mandat présidentiel, l'année numéro 2, l'année numéro 3, l'année numéro 4. Et donc, oui, l'année numéro 3, donc là, vous avez toutes les années qui sont à notre disposition, c'est la base de départ du travail. Et donc, l'année numéro 3 a une performance moyenne de 13%. L'année numéro 1, 7%. L'année numéro 2, 3%. L'année numéro 3, 13,96%. L'année numéro 4, 8,12%. L'année numéro 3 est la meilleure année historiquement du S&P 500, il s'agisse d'avoir un président démocrate ou un président républicain. L'année numéro 3, je vais vous montrer ici par exemple d'autres statistiques. Ici, c'est le pourcentage des années qui a été positive. Et donc, vous voyez que l'année numéro 3, lorsqu'on a un président républicain, 91% des années ont été positives. L'année numéro 3 du mandat, donc c'est l'année 2027 pour nous, lorsqu'il y a un président républicain, 91% des années ont été positives pour le marché action. Alors, forcément, là, ça va être différent. Si on a encore, il y aura encore Trump en 2027, normalement, mais s'il perd le Congrès, est-ce qu'on peut encore dire que vraiment c'est un pouvoir républicain ? Par contre, si en 2027, Trump est toujours là, bon, et plus il a conservé le Sénat, les républicains sont bien en place et on pourrait s'inscrire dans ces statistiques qui font que la troisième année serait solide. Par contre, si Trump perd la Chambre des représentants et le Sénat, est-ce que vraiment ces statistiques vont pouvoir s'appliquer ? Vous voyez, tout ça est passionnant. En tout cas, je voulais vous rappeler que cette troisième année du cycle présidentiel est la plus impactante en termes de performance moyenne. Et donc, ça, ce sera très important de continuer de suivre cette donnée. Alors, cette semaine, il y a beaucoup de choses. Vous avez notamment les résultats de AMD et de SpaceX, 2 résultats majeurs cette semaine. Je vous rappelle donc à un moment donc où les semi-conducteurs ont proposé une correction court terme. Première chose à savoir, attention AMD n'est pas Micron, AMD n'est pas Nvidia. Autant Micron a un PE forward extrêmement bas et les corrections court terme comme cela a eu lieu sur Micron sont intéressantes pour se placer si on ne s'est jamais placé, autant, attention, AMD est beaucoup plus cher. AMD est le 2e fabricant mondial de GPU IA, 10% de part de marché contre 90% pour Nvidia. Même Nvidia, c'est pas cher, mais AMD a un PE forward de 37. Donc, les corrections court terme de AMD, oui, il y a un potentiel de rattrapage. Oui, on se dit que AMD va gagner des parts de marché. Mais AMD est peut-être déjà extrêmement bien valorisé. Vous avez ici un certain nombre de données comparatives entre AMD et Nvidia. Et la technologie de AMD est superbe. Et beaucoup de clients cherchent à se diversifier des puces Nvidia en allant chercher donc les puces de AMD. La part de marché de AMD n'est que de 10%. Et on peut imaginer que petit à petit, ça va monter à 12, 13, 15%. Et que petit à petit, les parts de marché de Nvidia vont baisser. Mais voilà, avec un PE forward autour de 40 contre un PE forward de Nvidia de 17, je dis attention à AMD. AMD donc qui publie ses résultats cette semaine. AMD qui publie ses résultats cette semaine et que je vais pouvoir donc vous montrer aussi sur le plan technique. Alors regardez à quoi ressemble la petite AMD sur le plan technique. Si j'arrive à la trouver, elle doit être quelque part par ici. AMD, elle est là, voilà, sur le plan technique. Il y a un support technique qui pourrait être intéressant. Le tout premier support se trouve ici au niveau des $385. $385 qui est l'Akijun Weekly, ici, du système Ishimoku. Surveillez donc ce support cette semaine. Cette semaine, vous avez aussi les résultats de SpaceX. Rappelez-vous ce slide. Ce slide, je vous l'ai montré il y a, c'était début juin, en vous expliquant que toutes les IPO faites à Wall Street depuis 2015, dans 95% des cas, le titre montait au tout début, et ensuite, dans les 6 mois qui suivaient, perdait entre 50 et 80%. C'est ce que je vous ai montré, sauf ARM Holdings, mais toutes les autres, Uber, Airbnb, etc., Coinbase, toutes avaient largement baissé, donc je les avais mis en couleur rouge. Eh bien, regardez SpaceX, eh bien, moins 5, ah même c'est pire plus que ça, SpaceX, moins 52% depuis le cours le plus haut. Introduction en bourse le 12 juin, le plus haut a été fait le 16 juin et depuis, le titre a perdu moins 52%. C'est donc une nouvelle confirmation que dans large majorité, une majorité écrasante des IPO ne sont pas un bon timing. Par contre, souvenez-vous cette vidéo que je vous ai montrée il y a un mois, j'avais fait avec vous le tour d'horizon graphique de tous ces titres. Et après avoir perdu entre 50 et 80%, là, c'était le bon timing. Là, c'était le bon timing. Donc, SpaceX a perdu 52%. Et cette semaine, ce sont les résultats trimestriels de SpaceX. Est-ce que cela va être un catalyseur pour rebondir ou est-ce qu'au contraire, le titre va devoir basculer sous les $100 et être dans une situation de survente importante avant de reprendre sa marche en avant? Eh bien, nous aurons la réponse cette semaine. Ce que veut voir le marché, c'est quoi? Le marché veut voir SpaceX prendre le chemin de la rentabilité. Et vous savez que pour l'instant, ce n'est pas le cas. Il y a du chiffre d'affaires, il y a de l'EBITDA, il n'y a pas encore de rentabilité. Et ça va se jouer là-dessus, donc cette semaine, avec ces résultats de SpaceX. Donc SpaceX, voilà, rappelez-vous ce que je vous avais montré donc début juin, la valorisation c'était du grand n'importe quoi, et donc bah voilà, moins 50%. Quand tu es valorisé n'importe comment en rapport avec tes fondamentaux, tu t'exposes à une forte correction. C'est donc ce qu'il s'est passé. NFP, ce vendredi 7 août, mise à jour des chiffres de l'emploi aux États-Unis, le fameux rapport NFP. Je vous rappelle que les derniers chiffres du rapport NFP, la Fed va donc rester indépendante. Les derniers rapports NFP n'étaient pas bons. Regardez les 4 derniers rapports NFP. De moins en moins de création d'emplois aux États-Unis. Et ça, c'est bien sûr, ça aide la Fed à justifier son statu quo. Et donc, cette semaine, clairement, si on conserve cette dynamique négative des créations nettes d'emplois, ça va augmenter la probabilité que la Fed conserve le statu quo en septembre et peut-être même jusqu'aux élections de mi-mandat. Et enfin, donc, analyse technique de l'indice S&P 500. Je connais tout par cœur, je vous redonne les niveaux. À moyen long terme, rien à signaler au-dessus du support à 7050-7100 points. À moyen long terme, rien à signaler au-dessus du support à 7050-7100 points. La tendance de fond est bullish. Tout retour sur ce support est une opportunité. À court terme, le support est à 7450 points. Ça fait 2 semaines que je vous en parle. Ce support, le marché est resté longtemps dessus. S'il cède, c'est une cassure de support et c'est un retour à 7250 points. Tant qu'il se maintient au-dessus des 7450 points, même à court terme, la tendance est bullish. Et donc, ce niveau à court terme des 7450 points sur le contrat futur S&P 500, ça correspond à la partie haute ici du nuage journalier du système Ichimoku. Casser ce support, c'est aller à 7230 points. Le tenir, ça reste aussi à court terme. Notez bien, et vous irez voir le graphique au moment où vous regardez ma vidéo, parce qu'il y a un décalage entre le moment où j'enregistre et où vous regardez. Tenir ce support, nuage daily du système Ichimoku, ça reste bullish. Le casser, c'est un signal de baisse en direction des 7235 points. Chers amis, ainsi s'achève cette émission sur les élections de mi-mandat aux États-Unis. J'espère qu'elle vous a appris des premiers éléments intéressants. Nous aurons l'occasion d'en reparler 1000 fois d'ici là dans mes différentes vidéos sur la chaîne Swissquote. Et quant à moi, je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter jusqu'au bout. Passez une excellente semaine.
Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.